Radio Kapi. Oh, Kapi.
Merci de choisir Radio Kapi, la fréquence de la paix. Bienvenue dans la grande édition, votre rendez-vous quotidien avec l'essentiel de l'actualité. Au programme des faits qui ont marqué cette journée, les réactions des acteurs concernés, les reportages de nos correspondants et les éclairages de la rédaction. Je suis Gisèle Cage. Installez-vous tout de suite les principaux titres de cette édition. 48 heures, 42 cas, 24 morts, Ebola frappe fort en Ituri, la province fait face à une nouvelle poussée de l'épidémie. La vitesse de propagation du virus inquiète les autorités qui redoutent l'apparition de nouveaux foyers de contamination. 145 territoires, 15 mois sans salaire. Les ingénieurs d'ITEM et SAREL menacent de stopper le travaux. Face aux arriérés des rémunérations, les ingénieurs haussent le ton et envisagent la suspension de leurs activités au risque de perturber l'exécution des plusieurs projets de développement dans les provinces. À suivre, l'invité de Radio Kapi, anticiper les inondations pour sauver des vies à Kindu Manima, prévention, gestion de risque et relocalisation des populations menacées. Hugues Katembo apporte son analyse face à la recrudescence des inondations. L'Ituri est de nouveau confronté à une montée alarmante de l'épidémie d'Ebola. Le virus continue sa progression et le dernier chiffre publié par les autorités sanitaires suscite une vive inquiétude. 42 nouveaux cas confirmés et 24 décès ont été recensés en l'espace des 48 heures seulement dans les zones de santé de Bunia, Nizi et Ruampara. Une évolution rapide qui fait craindre un basculement de la situation sanitaire dans cette province durement éprouvée. Le centre d'opération d'urgence de santé publique alerte sur la vitesse de propagation de cette 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et appelle au renforcement des mesures de surveillance, de prévention et de prise en charge. Alors que la riposte est mise à rude épreuve, les autorités redoutent l'apparition de nouveaux foyers de contamination. Martial Kizabiamungu nous livre les dernières informations.
Au total, 43 nouveaux cas de la maladie à virus d'Ebola, dont 42 à Ituri et 1 au Nord Kivu, ont été enregistrés ces deux derniers jours. Les centres d'opération d'urgence de santé publique CUSP-RDC, dans son dernier rapport, parle d'un cumul de 1873 cas confirmés et 672 décès, soit un taux de létalité globale de 36% depuis la déclaration de cette 17e épidémie au pays le 15 mai dernier. Les centres d'opération d'urgence de la riposte contre Ebola indiquent que c'est pendant que 6 nouveaux patients ont été déclarés guéris et sortis d'hôpital le samedi dans la province de l'Ituri. Enfin, CUSP-RDC annonce l'expansion désormais de l'épidémie dans les provinces de la Tchopo et Otuélé, avec des cas confirmés venus probablement de Nyanya dans les territoires de Mambasa, d'Ituri, Bunia. Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Face à la menace persistante d'Ebola en Ituri, la riposte se joue aussi au cœur des communautés. À Bunia, le relais communautaire sont en première ligne. Ils sensibilisent les familles, repèrent les cas suspects et accompagnent les malades vers les structures de prise en charge. Mais sur le terrain, leur mission est loin d'être facile. Entre méfiance, intimidation et parfois même agression, ces volontaires poursuivent leur combat contre la maladie. Le point avec Isaac Remoyope.
Dans l'aire de santé des Bigots, trois relais communautaires sont affectés à chaque avenue. Chaque jour, ils parcourent les ménages pour sensibiliser la population aux mesures de prévention contre Ebola, identifier les personnes malades et signaler les cas suspects aux équipes de riposte. Selon les responsables, ce travail commence à produire des résultats avec un nombre croissant d'habitants qui acceptent volontairement les dépistages. Samuel Rema.
Actuellement, nous voyons maintenant la population commence à comprendre que la maladie existe. Il y a des avenues, il y a des gens qui ont même accepté d'aller se fait dépister volontairement.
Aussi des déplacés des Kigonze situés également dans l'aire de santé des Bigots, les relais communautaires poursuivent le même travail de sensibilisation. Les déplacés eux-mêmes participent désormais à la mobilisation de leur communauté. Selon les responsables, cette implication a contribué à renforcer le respect des mesures de prévention et à réduire les décès liés à Ebola dans les sites. Samuel Rehm.
Après qu'on ait formé une équipe de relais communautaires au sein des sites de Kigonze, eux-mêmes sont en train maintenant de sensibiliser le leur dans des langues locales. Même les gens des sites sont en train de nous appeler à quoi qu'on puisse venir les empiller.
Les relais communautaires estiment que leurs effectifs sont insuffisants pour couvrir tous les quartiers. Ils dénoncent également des actes de menaces, des insultes et parfois des agressions physiques de la part de certaines personnes qui refusent les activités de sensibilisation. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
L'inquiétude grandit dans le territoire de Shabunda au sud Kivu, où une nouvelle alerte sanitaire mobilise les autorités. Dans la zone de santé de Mulungu, 52 cas de diarrhée aiguë, dont 11 décès, ont été enregistrés entre le 23 juin et le 7 juillet 2026. Selon les responsables sanitaires, la plupart des patients sont admis dans un état de déshydratation sévère, une complication qui réduit considérablement leur chance de survie lorsqu'elle n'est pas prise en charge à temps. La situation est particulièrement préoccupante dans l'aire de santé des Lubila, où les difficultés d'accès aux soins compliquent davantage la prise en charge des malades. Les détails avec Ronéline Timbonera.
Dans une alerte épidémiologique publiée la semaine dernière, le médecin chef des zones, Dr Pacifique Kapimbu Ilonja, indique que ces cas ont été recensés entre la 26e et 27e semaine épidémiologique. 11 patients ont perdu la vie, soit un taux de létalité de 21,1%, jugé particulièrement élevé. Les statistiques révèlent que les personnes âgées de 18 à 50 ans sont les plus touchées. Toutefois, les cas des enfants de 1 à 5 ans sont aussi affectés. Selon lui, les premières investigations montrent que les populations concernées s'approvisionnent principalement en eau dans les rivières Lubila et Ulindi, ce qui pourrait favoriser la propagation de la maladie. Le médecin chef des zones rappelle que l'aire de santé de Lubila est régulièrement confronté à des flambées des diarrhées aiguës pendant la saison sèche. Malgré cette récurrence, aucun appui extérieur n'a encore été mobilisé pour renforcer les activités de riposte. Face à cette urgence sanitaire, il préconise un renforcement de la surveillance épidémiologique, une investigation approfondie des facteurs de risque, une prise en charge rapide des malades et une intensification des campagnes de sensibilisation sur l'hygiène, les traitements de l'eau et l'assainissement du milieu. Il lance enfin un appel pressant aux partenaires techniques et financiers pour obtenir un appui afin de prévenir une aggravation de la situation et d'éviter de nouveaux décès.
Avec la saison sèche, Kinshasa a changé de visage. Avec son cortège de froid, de vent et de poussière, la saison sèche transforme peu à peu le paysage et les habitudes de vie dans la capitale. À Kimbundo, dans la commune de Mungafula, les habitants s'adaptent à des matinées plus froides, à un air souvent chargé de poussière. Pulls, vestes, chaussettes, cache-nez et parfois même masques de protection font partie de réflexes adoptés pour affronter cette période. Dans les ménages comme dans les centres de santé, l'attention reste également portée sur les maladies respiratoires et d'autres affections fréquemment associées à la saison sèche. Comment les habitants vivent-ils cette transition climatique? Reportage de Gloriane Lepea.
À Kimbundo, un quartier réputé pour ses basses températures pendant la saison sèche, les habitants redoublent de précautions pour faire face au froid. Une mère de famille explique les dispositions qu'elle prend pour protéger ses enfants durant cette période.
Avec la saison sèche, ici à Mungafula, c'est pas facile. Hein. Comment moi je fais? Je ne lave pas les enfants tous les jours. Au moins, je prends les gants pour le débarbouiller seulement dans la maison. Les jours qu'il y a le soleil pendant la journée, là, je peux leur laver. Et ils sont toujours couverts de pulls avec bonnet, parfois de chaussettes, de bas, pour couvrir contre le froid.
De son côté, Arlène, habitante de Kimbundo, évoque les changements qu'elle apporte à son habillement et ses déplacements pour faire face aux rigueurs de la saison sèche.
Pour la saison sèche, j'ai déjà eu comme habitude de pouvoir m'y préparer déjà bien avant. J'achète des pulls, des chaussettes pour moi et pour les enfants. J'ai l'habitude de pouvoir prendre la tisane si je dois sortir, me déplacer. Généralement ici, on prend des motos hein, parce que notre route et les trafics est vraiment assez difficile. Il y a des embouteillages, donc il faudra avoir un cache-nez pour se protéger contre la poussière.
Une réalité saisonnière qui rappelle que le climat influence aussi les gestes les plus simples du quotidien.
Le spectre d'un blocage plane sur plusieurs chantiers du programme de développement local de 145 territoires. Des ingénieurs de l'entreprise Item SRL, chargés de travaux en sous-traitance pour Safricas, affirment cumuler plus de 15 mois d'arriérés de salaire. À bout de patience, ces professionnels basés dans plusieurs provinces du pays, notamment au Tanganyika, au sud Kivu, au Maniema et dans la Tchopo, annoncent la suspension de leurs activités jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Dans une correspondance consultée par Radio Capi, ils demandent à Safricas de prendre sans délai les mesures nécessaires pour sortir de cette impasse. Et le point avec Paulin Munanga.
D'après ces ingénieurs, ils ont travaillé dans la construction des infrastructures dans le cadre du projet 145 territoires. Ce sont notamment des bâtiments administratifs, des centres de santé et des établissements scolaires. Dans la correspondance, ils constatent que plusieurs autres intervenants du projet, notamment les entrepreneurs, sont payés, mais leur situation reste inchangée. Ils décrivent ce qu'ils qualifient d'injustice et se décident de suspendre toutes leurs activités sur l'ensemble du projet Pôle Est jusqu'à la régularisation de leur situation. Emmanuel Massirika est le représentant de la synergie des ingénieurs.
Nous avons à peine plus de 15 mois impayés jusqu'à présent. Donc nous avons commencé juste au début du projet. C'était début 2024 jusqu'à 2026. Donc on a fait à peine 2 ans et demi dans les projets des PDSA 45 territoires. Et jusqu'à présent, le problème c'est au niveau des paiements parce qu'on a commencé très très bien avec Safricas, Item. Nous avons beaucoup de lettres que nous avons envoyé, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de suite.
Nous avons tenté en vain d'entrer en contact avec les responsables de la société Safricas dans la province du Tanganyika. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Après plusieurs jours marqués par les bruits des armes, l'espoir d'un retour à la normale est né dans certaines localités du Nord Kivu, à Kaseke, dans les territoires de Masisi et à Lumbishi, dans celui de Calais. Le calme est revenu ce lundi après 3 jours de combats entre le Wazalendo et le rebelle de l'AFC M23. Selon des sources locales, le Wazalendo aurait pris le contrôle de ces deux localités, une situation qui pousse progressivement des familles déplacées à regagner leur village malgré les incertitudes qui persistent. Les détails dans ce papier de Magloire Landou.
Le combat particulièrement intense dimanche à Lumbishi, en suivi de jours d'affrontements autour des Kasake près d'Ngungu. De sources locales rapportent que le combattant Wazalendo, dirigé par Noah Machano du groupe Maïma Ilamuka, se serait également déployé dans les villages voisins des Shangi, Katarandwa et Shoa, où la situation reste néanmoins tendue. La présence des Wazalendo est également signalée dans les villages des Shangi, Katarandwa et Shoa, autour des Kasake, où la situation reste volatile. Depuis plusieurs mois, les Wazalendo et l'FC M23 se disputent le contrôle de cette zone à cheval entre Kaleye et Masisi, le localité passant régulièrement d'un camp à l'autre. Cette instabilité a déjà poussé des centaines d'habitants à déplacer leurs familles après des destructions et des pillages de leurs biens, tandis que ceux qui restent font face à une précarité croissante.
Cap à présent sur la région de Beni, au Nord Kivu, où la criminalité continue de gagner du terrain à Kasindi, Lubiria. La société civile de cette commune rurale située à 85 km de Beni exprime sa vive inquiétude face à la recrudescence des incursions des bandits armés dans les habitations. Selon elle, ces actes criminels fragilisent davantage les ménages et entretiennent un climat de peur au sein de la population, tout en appelant les habitants à dénoncer tout mouvement suspect. Elle exhorte les services de sécurité à traquer et démanteler les réseaux criminels qui opèrent dans la région. Paul Zaidi, rapporteur de la société civile de Kasindi Lubiria, est joint au téléphone par Marc Marofimbo.
Il s'observe une résurgence du banditisme dans plusieurs quartiers de Kasindi. Nous saisissons cette opportunité pour interpeller toutes les personnalités qui possèdent la mission régalienne de protéger la population et leur bien, de s'activer et de ne pas seulement constater les dégâts pour venir mener des investigations autour de la nature du crime ou du banditisme commis dans le ménage de la commune de Kasindi, parce que ces banditismes banditisme est à la base de l'appauvrissement de plusieurs familles dans notre entité. C'est pour cette raison, nous demandons à ce que les patrouilles diurnes et nocturnes soient renforcées afin de procéder au démantèlement des réseaux des criminels et des bandits. Et nous appelons également la population à renforcer les systèmes de la vigilance à base communautaire. Ça signifie que la sécurité est une affaire qui concerne tout le monde. Nous ne devons pas nécessairement croiser les bras et observer les exploits qui seront fournis par les services de sécurité et de l'ordre.
Réagissant à ces préoccupations, le bourgmestre de la commune de Kassindi affirme que des dispositions sécuritaires sont déjà en cours pour traquer les auteurs de ces actes criminels et renforcer la sécurité de la population. De Goma à Rabat, à la seule force du vélo, un jeune Congolais porte un message de paix à travers le continent. De passage en Mbujimayi, Miguel Masaïsaï, 25 ans, a captivé l'attention de nombreux jeunes engagés dans un périple baptisé Pedal for Peace ou Pédale pour la paix. Il parcourt plusieurs pays pour promouvoir l'amour, l'unité et la cohésion nationale. Durant les 48 heures passées dans la capitale du Kasaï oriental, son message a trouvé un écho particulier auprès de la jeunesse réunie sur la place de Bonzola dans la commune de Nkashi. Reportage d'Esther Ndalafina.
Face à ces jeunes cyclistes engagés, les jeunes de Mbujimayi ont exprimé admiration, espoir, mais aussi inquiétude. Admiratif de son courage, Bijou Binyanga dit voir en lui la preuve que la jeunesse congolaise peut porter des initiatives capables de rassembler.
La paix, c'est chacun de nous, c'est qu'on décide de faire, même à petite échelle. Le passage de Miguel a ravivé un désir, celui de participer à la construction d'un Congo uni.
Pour Timothée Moulumba, le passage de Miguel n'est pas qu'un événement, c'est un rappelle que la paix se construit aussi par des engagements personnels et la volonté de croire en un Congo uni.
Nous, étant jeunes, ça nous donne courage, l'envie de chercher aussi par quel moyen s'impliquer aussi à rechercher la paix.
Pour Neville Kayembe, le courage de Miguel est une preuve que l'engagement n'a pas d'âge et que la paix peut se porter même sur deux roues.
On doit s'aimer, c'est vrai, la paix n'a pas d'âge. Ayons l'amour entre nous.
Entre admiration et inquiétude, les jeunes de Mbujimayi ont exprimé leur réalité. Le message de Miguel les touche, mais il révèle aussi leur frustration profonde.
Ici, nous les jeunes, on n'a pas tellement de l'espace pour nous exprimer.
Miguel Masaïsaï, sac au dos, vélo en main, a poursuivi sa route avec comme objectif atteindre la ville de Rabat au Maroc. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Ouganda, le procès pour trahison de l'opposant historique ougandais Kizza Besigye est entré ce lundi dans une phase décisive devant la haute cour de Kampala avec l'audition attendue de premiers témoins après plusieurs mois de débats procéduraux. Mais l'ouverture des audiences a été marquée par une vive controverse. Selon ses avocats, Kizza Besigye aurait été amené de force depuis sa cellule pour comparaître devant les juges. Une situation que la défense qualifie de sans précédent. À l'origine de ce bras de fer, le boycott du procès par une partie de ses conseils qui dénonce l'absence des conditions garantissant un procès équitable. Il déplore notamment la détention de l'un de ses principaux avocats, Erias Lukwango, ainsi que l'interdiction d'entrer en Ouganda visant l'avocate kényane Martha Karua.
L'invité.
À Kindu, les inondations ne sont plus un simple phénomène saisonnière. Elles sont devenues une véritable menace pour des milliers d'habitants. Maisons détruites, biens emportés par les eaux et familles déplacées. Le bilan est souvent lourd après chaque crue. Comment mettre fin à ces cycles de catastrophes qui frappent régulièrement certains quartiers de la ville? Faut-il envisager le déplacement des populations installées dans les zones inondables? Autant des questions que nous abordons avec Hugues Katembo, superviseur du projet de réponse à la crise provoquée par les inondations fluviales à Kindu. Il est l'invité de Florence Kiza Lunga.
Hugues Katembo, bonjour.
Bonjour madame.
Vous clôturez votre projet de réponse aux inondations fluviales dans la ville de Kindu. Avez-vous atteint les objectifs?
Oui, les objectifs ont été atteints, vraiment, puisqu'on avait l'objectif d'assister 800 ménages en différents secteurs secteurs, à savoir la santé, la réduction des risques de catastrophes, les WASH, les CASH, mais aussi la sensibilisation sur les violences basées sur les genres, la sensibilisation des comportements à prendre avant, pendant et après les catastrophes. Et nous avons aussi assisté les gens en santé, donc la prise en charge gratuite des soins de santé, mais aussi la prise en charge des violences basées sur les genres, sur le plan psychosocial.
La réponse n'est pas tellement durable. Votre organisation veille toujours rentrer chaque année à Kindu pour assister ces gens, ou bien un jour vous comptez contribuer pour des réponses durables?
Oui, effectivement, le projet avait des aspects tout à fait humanitaires, donc à court terme, mais aussi il y avait des actions qui prennent en charge la continuité, à savoir notamment le pilier de réduction des risques de catastrophe qui s'est chargé de mettre en place les balises, c'est-à-dire la surveillance de la montée des eaux dans le cadre des systèmes d'alerte qui permettra à chaque fois que les eaux montent d'avertir les communautés pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, anticiper leur déplacement vers les zones sûres. Il y a aussi les aspects de sensibilisation qui sont venus dissiper un peu les lacunes liées notamment aux violences basées sur les genres, aux bonnes pratiques d'hygiène. Ça, ce sont des actions qui sont pérennes et qui, dans les jours à venir, pourront servir déjà les communautés pour éviter beaucoup de problèmes avec la montée des eaux.
Lors de la mise en œuvre de votre projet, quelle a été la grande difficulté?
La grande difficulté, c'était liée au fait que les statistiques d'avant par rapport au ciblage étaient supérieures aux chiffres dont nous avons assisté, à savoir les statistiques étaient à 1117 ménages qui devraient être pris en charge, mais le projet avec le financement de StatReady, ce qui était disponible, c'était pour 800 ménages. Alors, nous avons été obligés d'être vraiment très rigoureux par rapport aux critères pour essayer un peu de trouver les gens qui sont vraiment dans les besoins, et ce sont ceux-là qui ont eu l'assistance du projet. Mais alors, il y a nombreux qui sont restés, mais on ne pouvait pas faire autre chose, mais les pays qu'on a identifiés et qu'on a ciblés ont été satisfaits vraiment avec succès, et des recommandations ont été bien sûr récoltées dans le cadre de feedback, mais en global, c'est une grande satisfaction des communautés qui bénéficièrent.
Durant les 2 mois d'exécution de ce projet, si on vous demandait de formuler une recommandation en faveur des populations vivant dans les zones inondables, quelle serait votre recommandation?
Ma recommandation serait vraiment d'identifier des zones sûres, puisque vraiment vivre dans les zones là où chaque année les eaux doivent monter, puis se préparer visibles, ce sont des inondations fluviales. Donc c'est saisonnière. Chaque fois les gens perdent les biens, les maisons sont détruites ou endommagées. Ça serait mieux vraiment de changer de paradigme, de vivre dans l'eau et de chercher les endroits. Puisque chaque année s'il faut assister les gens qui savent d'office que chaque année ils seront touchés par les eaux, c'est un peu difficile. Donc il faudrait que les gens puissent penser déjà à relocaliser vers les zones sûres, en fait qu'ils puissent, n'est-ce pas, préserver les moyens qu'ils ont.
Est-ce que vous partez avec l'idée de revenir encore une fois dans le maniement pour assister les autres victimes?
Oui, effectivement, il y a beaucoup de travaux à faire ici dans le cadre de prévention. Ça, c'était un projet d'urgence, mais la prévention serait de renforcer vraiment la connaissance et les bonnes pratiques, c'est-à-dire de capitaliser les acquis actuels du projet et de les pérenniser. Je pense que ça, c'est un travail permanent qui doit être là jusqu'à ce qu'on transforme les faiblesses en capacité. Les autorités se sont engagées à entrer dans cette démarche pour essayer un peu de rendre disponibles des endroits sûrs où les populations peuvent, n'est-ce pas, relocaliser et éviter d'être des sinistrés éternels pour chaque année, chaque année. En fait, ce qu'on a fait, c'est une partie. Donc, s'il y a d'autres bonnes volontés, d'autres partenaires, ils peuvent déjà nous compléter pour essayer un peu de résorber cette demande, ce besoin qui est pressant par rapport aux dommages causés par la montée des eaux.
Hugues Katembo, merci.
Je vous en prie, maman.
C'était Hugues Katembo, superviseur du projet de réponse à la crise provoquée par les inondations fluviales dans la ville de Kindu, invité de ce journal. Entretien réalisé par Florence Kizalunga. C'est la fin de cette grande édition. Merci d'avoir passé ce moment d'information avec nous sur Radio Okapi. L'actualité ne s'arrête pas ici. Retrouvez-la à tout moment sur www.radiookapi.net, sur Facebook, X, YouTube et sur toutes nos plateformes numériques. Restez connectés pour nos prochaines éditions et nos programmes d'information. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous sur Radio Okapi, la fréquence de la paix.